Bon, nous allons donc poursuivre cette première journée par donc l'intervention de Jacqueline Risset, qui va nous parler des avant-gardes en France et en Italie dans les années 60, c'est-à-dire qu'on est passé... Les avant-gardes littéraires en Italie et en France dans les années 60, c'est-à-dire on est passé après la Deuxième Guerre mondiale, donc on change tout à fait de perspective. Donc Jacqueline Risset est à la fois écrivain, poète, critique et traductrice, puisqu'elle a traduit Dante il n'y a pas très longtemps. Elle est donc professeure à l'université de Rome 3, et elle a participé elle-même au groupe Tel Quel, qui donc, fait donc partie de ces avant-gardes en France dans les années 60, puisque dans les années 80. Elle s'est aussi intéressée au groupe Gruppo 63 qui apparaît en Italie dans les mêmes années et qui fait donc partie de ces avant-gardes en Italie. Donc elle va donc s'intéresser au rapport entre ces deux avant-gardes qui apparaissent au même moment, mais qui sont sans doute différentes, avec beaucoup de différences à étudier. Donc, voilà.
Merci. Je suis très contente d'être ici dans cette salle où j'ai entendu pas mal de conférences et en particulier les mémorables séminaires de Jacques Lacan. Et justement, l'année dans laquelle je suis entrée en contact avec Tel Quel, c'était les années, la moitié des années 60 et c'était une période extraordinaire à Paris. C'était une période d'effervescence intellectuelle tellement riche. On avait l'impression que tous les jours apparaissait une sorte de feu d'artifice qui ouvrait des horizons. Et cette salle était un de ces lieux. Un de ces lieux vraiment où on sentait que vibrait quelque chose aussi comme de l'ordre d'un futur. Alors nous sommes aujourd'hui dans une autre période, évidemment. On ne sait pas ce qui va en sortir. Mais c'est une période qui n'est pas non plus mal pour rappeler ce qu'ont été les avant-gardes littéraires en France et en Italie pendant cette période. Et c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on les voit peut-être finalement d'une façon différente. Ces deux avant-gardes en France et en Italie ont suscité de tels remous, de tels ferments et des oppositions qui fait qu'on a eu du mal pendant longtemps à les voir telles qu'elles étaient, en fait, telles qu'elles étaient. Aujourd'hui, je crois qu'on peut commencer à discerner et à voir ce qui, pour nous, est vivant et profondément vivant dans ces avant-gardes qui ont... pour nous aujourd'hui, des langages un peu excessifs, peut-être quelquefois un peu rigides, mais qui ont transformé de façon très forte, qui ont ouvert aussi beaucoup d'horizons, beaucoup autant qu'elles en ont fermé, disons. Et alors, je voudrais commencer par un témoignage, un rappel comme une image au bord de ce que je vais dire, et qui était la première fois où je suis allée à une réunion, c'était du groupe 63, c'était la deuxième réunion du groupe 63 qui était née donc en 63, ça se passait en 65. Moi, j'étais lectrice à Rome, et je venais de rencontrer quelques mois auparavant, tel quel. J'avais envoyé des textes parce que, comme il arrive quand on écrit, c'est les premières choses qu'on écrit, j'avais été frappée en lisant cette revue qui commençait à se répandre par un sentiment de très grande proximité. Je veux dire, du fait d'une sorte d'affinité profonde que je ne prévoyais pas. Et j'ai envoyé des textes. Ces textes ont été reçus et publiés un peu plus tard. Et donc, je suis entrée en contact. J'étais pas et encore du tout, évidemment, dans le comité. Je venais d'entrer en contact. Mais du coup, comme j'étais en Italie, je suis entrée en contact à partir de Tel Quel, disons, avec le groupe 63, et avec Nanni Balestrini, Giorgio Manganelli en particulier, à Rome, et ils m'ont invité à assister à ce deuxième congrès. Le premier avait eu lieu donc en 63 à Palerme, le deuxième se passait de nouveau à Palerme en 65. Et pour moi, ça a été une expérience très curieuse, très drôle, parce que d'abord, ce colloque se passait dans l'hôtel des Palmes, qui est l'hôtel où est mort, où s'est suicidé Raymond Roussel. Et pour moi, pendant toute cette semaine, disons, où j'étais là, je n'ai pas cessé de percevoir tout ce qui se passait là, à travers Roussel, c'est-à-dire j'avais l'impression de lire un livre de Roussel, Les Impressions d'Afrique ou Locus Solus. Il y avait là un maître d'œuvre qui était le baron Agnello, qui était un mécène qui aidait le groupe 63 et qui ressemblait beaucoup au savant de Locus Solus, Mathias Cantrel. Et il y avait toutes sortes de personnages assez mystérieux. J'ai su d'ailleurs plus tard qu'il y avait un groupe de messieurs qui se réunissaient dans une sorte de galerie des glaces qui était un salon somptueux et caché de l'hôtel des Palmes, qui étaient probablement des dirigeants de la mafia, parce qu'ils se réunissaient traditionnellement, paraît-il, dans ce lieu. Mais enfin, ils n'empêchaient pas les autres de se réunir. Et les réunions du groupe 63 dans cet hôtel poussiéreux rempli de palmiers et dans une atmosphère de sirocco assez étrange était elle-même très étrange pour moi qui débarquais de tel quel. C'est-à-dire, j'arrivais du tout petit bureau des éditions du Seuil, tel quel, dans lequel les réunions étaient des réunions extrêmement denses. Je veux dire, on n'était pas beaucoup, il y avait le groupe de tel quel et quelques amis. Et les réunions étaient ou des moments dans lesquels on lisait les textes qui venaient d'arriver, un texte de Derrida, un texte de Foucault, un texte de Lacan, et là c'était absolument passionnant. Il y avait aussi d'autres moments dans lesquels on discutait vraiment des notions, et alors là il y avait une sorte de rigueur, de volonté, de définition, de dureté même aussi de la discussion. Et là tout d'un coup je me retrouvais dans ce salon de l'hôtel des Palmes où il y avait à peu près 50 personnes, très très différentes les unes des autres. Il y avait des écrivains, mais il y avait aussi des critiques, il y avait aussi des musiciens, il y avait aussi des gens dont on ne savait pas qui ils étaient. Tout le monde parlait, tout le monde discutait, avec beaucoup de vitalité, sans vraiment définir l'objet de la discussion, sans que les notions soient définies provisoirement, ce qui, moi, me scandalisait un petit peu. Mais en même temps, je dois dire que j'étais aussi fascinée par cette sorte de lutte qui était une lutte, disons, plus sociale et politique que littéraire. Mais il y avait en même temps des points extraordinairement littéraires lorsque parlait, par exemple, Manganelli, qui, lui, disait exactement le contraire de ce que tous les autres venaient de dire. C'est-à-dire, il y avait cette façon que avait le groupe 63 de dire que la littérature devait être une espèce de démasquage des idéologies, etc. Et Manganelli se lève à ce moment-là, très doucement, et fait un petit discours. La littérature, c'est le mensonge. Et tout le monde, d'ailleurs, acceptait avec une grande courtoisie et une grande affection, je dois dire, ce que disait Manganelli. Donc il y avait ces niveaux de contradiction qui étaient extrêmement forts. Les rapports et cette image, enfin ces images de ce salon de l'hôtel des Palmes, m'est toujours restée comme cette sorte de différence palpable, disons, entre les deux mouvements. Les rapports directs entre entre Tel Quel et le groupe 63, eh bien, il y en a eu tout de suite, disons, que Tel Quel, qui est né en 60, a presque aussitôt publié des textes de Umberto Eco. Il était là aussi. Il faisait partie aussi du groupe 63, sur Joyce, et aussi le roman de Sanguinetti, Capriccio Italiano, Et en 63, il y a eu une sorte de colloque de tel quel, le colloque de Cerisy, qui a été publié dans le numéro 17. Et c'était ce colloque. Sanguinetti était présent. Et là, on sentait qu'il y avait déjà des oppositions qui se formaient, c'est-à-dire que les telquelistes reprochaient violemment au groupe 63, à Sanguinetti en particulier, d'être jungien et pas freudien. Par contre, le groupe 63 reprochait à tel quel d'être trop littéraire et pas assez politique. Donc il y avait une sorte de... et même nostalgique. Je veux dire, pour le groupe 63, il y avait cette sorte d'adjectif. Il y avait une sorte de crispation, vraiment de polémique entre les deux. A priori, si on regarde les données principales, on a l'impression que l'histoire des deux mouvements est extrêmement différente, et qui est liée, elle est liée d'ailleurs avec l'histoire, évidemment, des deux pays. Le groupe 63, donc, naît, comme son nom l'indique, en 63, mais il est né, il s'est formé, disons, petit à petit, il est né de choses qui existaient évidemment bien avant. En particulier, il est né autour d'une revue qui se faisait à Bologne, qui existe encore d'ailleurs, qui s'appelle Il Verri, et qui était dirigée par Luciano Anceschi, qui était un professeur d'esthétique tout à fait remarquable, qui avait écrit depuis les années 30 sur l'autonomie du langage artistique. Et qui et autour de cette revue, il y avait toute une sorte de débat constant, partant de la littérature, mais s'étendant à l'anthropologie, à la psychanalyse, à la phénoménologie et aussi à la politique. En 1961, nouvelle date importante, surgit est publié un volume qui s'appelle I Novissimi. Et c'est la première apparition de l'avant-garde proprement dite. Les Novissimi, comme leur nom l'indique, c'est les tout nouveaux, les très nouveaux. Et c'est un groupe de 5 poètes, Balestrini, Porta, Pagliarani, Sanguinetti et Giuliani, qui publient leurs œuvres. Et le nom lui-même vient, c'est très clair, de la toute première avant-garde italienne, celle du Dolce Stile Nuovo. C'est Maria Corti qui emploie ce terme d'avant-garde à propos du Dolce Stile Nuovo. Mais il ne faut pas oublier que le Dolce Stile Nuovo de Dante, de Cavalcanti et de leurs amis n'était pas si doux que cela. C'était un style âpre, dense et intense. Et c'est ce que rappellent aussi les Novissimi, qui ont un but déjà aussi de lutte. Et celui qui les définit, c'est Alfredo Giuliani, qui fait la préface au livre et qui est revenu plusieurs fois sur le sens de cette expérience de ces 5 poètes qui écrivent de façon différente, mais qui se sentent en commun cette volonté de lutter contre quelque chose, contre ce qu'était la poésie italienne de l'époque. Il s'agit tout d'abord de ce qu'ils appellent l'expérimentation. Giuliani écrit qu'ils étaient liés par la rigueur de l'anarchie et que leur tentative était une tentative extrême de donner un sens à l'insensé quotidien à travers un équilibre instable entre rationnel et irrationnel. Pour cela, il s'agissait de faire dépérir le langage de la poésie moderne. Et, dit Alfredo Giuliani, nous ne voulions rien enseigner. Pour rompre ce langage de la poésie moderne, eh bien, chacun de ces 5 poètes emploie des moyens différents. Je donne un seul exemple, celui du premier Sanguinetti, le volume de Sanguinetti qui précède la parution de l'anthologie des cinq poètes. Dans deux de ses livres précédents, Labyrinthus et Erotopenia, Sanguinetti fait un usage tout à fait à lui de la langue latine. Dans Labyrinthus, il emploie la langue latine comme langue morte, c'est-à-dire comme intervention d'une langue morte au milieu de la langue vivante, c'est-à-dire d'une sorte de présence d'inertie, de chute de tension, j'emploie ces expressions, absence d'énergie expressive d'une société à un certain point de son histoire, la nôtre, dit-il. Donc, la langue latine est destinée à quelque chose, à faire émerger ce que la langue poétique italienne, qui est écrite en italien moderne, cache, c'est-à-dire qu'elle est en réalité une langue morte. Seulement, et c'est là la contradiction des poètes, il se passe en plus ceci, c'est que sous les mains de Sanguinetti, et ça c'est une des contradictions idéologiques, je crois, de Sanguinetti, mais une contradiction poétique en même temps très riche, c'est que cette langue morte, sous les mains de Sanguinetti, devient une langue encore plus vivante que l'autre, quelquefois. C'est-à-dire qu'il y a comme, il se produit comme une sorte d'excès énergétique. Ce qu'on sent de la langue latine dans ses poèmes, c'est qu'elle est la racine vivante et proche de la langue italienne. C'est-à-dire que pour un lecteur français, par exemple, il y a une sorte de phénomène d'envie qui se produit, c'est-à-dire le fait que la langue italienne puisse utiliser la langue latine avec cette proximité, alors que pour un Français, la langue latine, eh bien, ce sont les pages roses du dictionnaire Larousse. C'est quelque chose d'irrémédiablement lointain, figé et pédant. Alors que dans la langue poétique de Sanguinetti, alors là même où il dit qu'il veut la faire apparaître comme une langue morte, ce qui apparaît, c'est au contraire cette racine étymologique en mouvement, en jeu. Et ça, c'est un de ses pouvoirs, même d'une sorte de surplus musical de la langue qui joue. Dans Erotopenia, c'est tout à fait autre chose. Erotopenia, il l'a écrit entre 56 et 59, donc juste avant l'anthologie. Et là, c'est une autre langue latine qui est utilisée. C'est la langue latine médiévale, celle des étudiants, celle des goliards. Et cette langue latine-là, elle est utilisée comme une langue de dérision de la langue haute. Sanguinetti définit son livre comme les noces monstrueuses du sexe et de la philologie. La langue latine est le dépositaire de cette sorte de présence ironique, violente, insistante, du bas contre le haut. Et là encore, c'est une des ressources de la langue qui est en train d'être mobilisée, déconstruite, transformée par le groupe 63. Donc le groupe 63 s'est formé sans aucun rapport avec la littérature française. Son modèle était plutôt, et son nom l'indique, le groupe 63, il y a un modèle, c'est un modèle allemand qui était le groupe 47. Lorsque les jeunes écrivains allemands se sont retrouvés et ont commencé à faire, après le désert engendré par le nazisme et cette sorte de rien, de ruine absolue qu'était l'Allemagne à ce moment-là, les jeunes écrivains se sont réunis et ont commencé cette pratique qui sera aussi celle du groupe 63, celle des lectures collectives et des sortes de critiques collectives les uns par les autres. C'est une pratique que le groupe 63 inaugure tout de suite à Reggio Emilia, par exemple. Et c'est à partir de cet exemple du groupe 47. Alors, c'est immédiatement, il y a une valence politique dans le groupe 63. Et il faut se rappeler qu'il y a eu, après le fascisme en Italie, qui était très différent, observent les gens du groupe 63, c'est-à-dire que le nazisme avait donné vraiment le désert absolu. Le fascisme avait plutôt essayé, enfin, dans une certaine mesure, de flatter les écrivains, de se les allier, et ce qui avait donné aussi une sorte de tradition provinciale et petite bourgeoise défensive et peureuse, et donc une tradition littéraire limitée et limitante, ce qui fait que ce que veulent les gens du groupe 63, c'est sortir de cette tradition restrictive et aussi sortir de l'échec qui a été celui de Vittorini qui a, avec une grande, Vittorini et Pavese, avec un grand enthousiasme, ont commencé à vouloir construire la nouvelle littérature, mais petit à petit l'enthousiasme s'est limité, les politiques sont devenues beaucoup plus rigides et il y a eu cette sorte de fossé entre littérature et politique que Vittorini disait ainsi: nous n'avons les politiques, nous ne nous sommes pas fait comprendre des politiques. Donc, et il y a cette nouvelle tentative du groupe 63 de transformer la littérature, mais de l'intérieur, en changeant littéralement le langage de la poésie, par exemple. Et alors, il faut bien voir que le groupe 63 a été doublement accusé à ce moment-là en Italie. Accusé par la droite d'être des communistes, ça c'est une façon d'accusation de la droite qui, on sait, se reproduit assez fréquemment, un simplisme, je veux dire, condamnatoire très récurrent. Et la gauche les a jugés comme désengagés, ludiques, expérimentaux et par conséquent tout à fait insuffisants du point de vue de la lutte politique. De plus, ils ont été accusés, alors que eux disaient vouloir lutter contre l'establishment littéraire et culturel, et ils ont été accusés de vouloir prendre leur place dans cet establishment en entrant dans les maisons d'édition et dans les dans l'université et dans toutes les places où dans les journaux, etc. Eh bien, ils ont été remarquablement défendus de ces accusations par un article de Umberto Eco qui a paru en août-septembre 69, dans les Temps modernes, où il y a un petit dossier sur le groupe 63. Et Umberto Eco a écrit un article qui s'intitule « Poissons rouges et tigres en papier ». Les tigres en papier, c'était la culture telle que les voyaient les gens qui voyaient le groupe 63 comme quelque chose. C'était, vous reconnaissez l'expression de chinoise, que les impérialistes, que les occidentaux comme des tigres en papier. Et Poisson rouge, c'était le titre d'un livre de Emilio Cecchi qui appartenait pour le groupe 63 à cette littérature traditionnelle dont il fallait absolument se débarrasser. Et Eco dit ceci: il s'agissait en réalité du fait que ce n'étaient pas des tout jeunes écrivains qui voulaient conquérir le pouvoir, comme on en trouve par exemple en ce moment même en Italie. C'était autre chose. C'était d'ailleurs, il s'agissait de gens qui, pour beaucoup, déjà écrivaient, déjà publiaient, dont certains étaient justement déjà dans des maisons d'édition, dans des journaux, etc. Et il s'agissait pour eux, dit Eco, de mettre en question le pouvoir qu'ils avaient été contraints de gérer. C'est-à-dire, ils se sont trouvés dans ce pouvoir et ils se sont aperçus, ils ont commencé à réfléchir à ce moment-là sur la société culturelle et à vouloir lutter à un double niveau, dit Eco, dans la politique culturelle, en rendant évidentes les structures sur lesquelles elle reposait, et aussi dans la culture comme acte politique. Et c'est à ce moment-là, dit Eco, il dit la même chose que disaient les novissimi, c'est-à-dire il s'agit à ce moment-là de mettre en cause le langage. Et il donne cette formule de la poétique du groupe 63, s'il y en a une. C'est un discours de rupture doit briser les modes de la communication littéraire. On ne peut pas simplement parler de rupture, il faut la faire concrètement dans le langage lui-même. Et en 69, donc, Eco retrace le cheminement du groupe 63 vers sa fin. Et à partir de la fondation en 1967 d'un journal, ce n'était pas une revue, c'était un journal, Quindici, qui est devenu rapidement un journal surtout politique. C'était un journal dans lequel il y avait des articles, des récits même, et aussi à côté des articles purement politiques. Et là, Eco dit en réalité... c'était un monstre hybride parce qu'il y avait d'un côté la littérature et de l'autre la politique. En réalité, le fossé s'était recréé. Et même si il y avait de la part des gens qui faisaient cette revue, une volonté au contraire de créer des liens et de donner la parole. Par exemple, c'est ainsi que Quindici a donné la parole à des gens qui n'étaient pas du tout du groupe 63, qui étaient les jeunes étudiants contestataires de Turin. Et ce qui était, dit Eco, un geste de donation, qui était en même temps un geste de dessaisissement. Et à partir de là, on est entré dans les années de plomb. Et le groupe 63 s'est résorbé, disons. Chacun de ses composants a poursuivi seul, pratiquement, son œuvre. Et en France, Telle Quelle a eu une histoire différente, puisque Telle Quelle est née, on pourrait dire, tout casqué, en 1960, dans une revue. Et ça, c'est une chose très rare. En Italie, ça n'existe pratiquement pas. Une revue qui existe avec le format, les caractères, la périodicité surtout qu'elle aura, extrêmement régulière. Les revues qui ont une périodicité régulière sont pratiquement inexistantes en Italie. Alors que Telle Quelle est issue, a commencé à sortir tous les 3 mois. Et de façon extraordinairement régulière et avec ces distincts printemps, été, automne, hiver. Et c'est là où il y a une filiation qui n'est pas connue, à mon avis, de Telle Quelle, et qui est italienne. Italienne mais cosmopolite, italienne et cosmopolite, c'est Botteghe Oscure, le journal de Marguerite Caetani à Rome, ce journal, cette revue, disons, extraordinaire, cette revue littéraire qui a duré quelques années, entre 1947 et 1960 précisément. C'est au moment où Telle Quelle commence, au moment où Botteghe Oscure s'arrête, que Telle Quelle commence. Et il y a Botteghe Oscure a été dans une certaine mesure un modèle pour Telle Quelle. C'était une revue qui n'avait pas du tout, Botteghe Oscure, de discours théorique, absolument aucun. C'était uniquement des textes, choisis par Marguerite Caetani, qui avait une sorte d'intuition extraordinaire, mais qui avait une intuition qu'elle savait aussi appuyer sur les choix de conseillers dans chaque pays, par exemple. Pour la France, c'était René Char, et c'est René Char qui a amené Ponge, Georges Bataille, etc., dans la revue. Ce qui fait aussi que cette revue, Botteghe Oscure, a publié des écrivains, surtout des poètes, qui étaient à cette époque-là inconnus dans leur pays et qui sont devenus connus et des grands écrivains par la suite. Et la même chose pour l'Allemagne, la même chose pour l'Amérique. C'est Marguerite Caetani qui a découvert Dylan Thomas, etc. Et en réalité, les jeunes écrivains de tel quel, dont certains, Marcelin Plenet a publié dans Botteghe Oscure aussi, mais il y avait cette idée d'une littérature innovative, essentielle, forte, partout là où elle se trouvait. Et telle qu'elle, au début, n'était absolument pas du tout cette revue théorique et hyper théoriciste qu'elle est devenue par la suite. Au contraire, c'était une revue de jeunes écrivains qui voulaient reprendre, de la même façon que Verlaine avait repris à la musique son bien pour la poésie. Les jeunes écrivains de tel quel, ce qu'ils voulaient, c'était reprendre la critique de la littérature à la critique. Et ils se sentaient à ce moment-là, les écrivains, doublement marginalisés, d'une part par l'engagement sartrien, et le petit texte d'ouverture du premier numéro de tel quel en 1960 est un texte contre l'engagement sartrien, suivant en cela Maurice Blanchot et Georges Bataille, lequel Georges Bataille avait publié en 1950 dans Botteghe Oscure, précisément un livre qui était un texte extraordinaire, qui était une lettre à René Char, qui s'intitulait « Lettre sur les incompatibilités de l'écrivain ». Et pour Bataille disait la devise de la littérature est « non serviam », qui est la devise du diable. « Je ne servirai pas, la littérature doit être libre ou elle n'est pas, et littérature et engagement sont les deux antipodes ». Et il y avait cette sorte de, et la position de Blanchot était la même. Donc la position de tel quel était celle, était donc une opposition absolue au programme donné de l'extérieur, c'est-à-dire à l'engagement. Mais en même temps, il se sentait marginalisé aussi par la critique, par les critiques qui pensaient que la critique de la poésie appartient aux critiques. Et c'était la période de la naissance de la nouvelle critique, qui, en plus de critiquer a posteriori les œuvres, avaient pensé qu'il était bon pour eux de donner des directives aux écrivains, de leur dire ce qu'il fallait qu'ils écrivent. Alors, il y a cette sorte de rébellion, justement, de tel quel, disant « Non, la littérature est quelque chose de souverain et quelque chose aussi qui a un rapport à travers le langage » à la vérité. Ça, c'est une chose qui descend évidemment de Mallarmé et aussi plus loin, etc., de toute la réflexion, de toute une réflexion de Proust aussi, de Musil, de Joyce. Et c'est-à-dire, c'est dans la littérature, par la littérature, que la vérité, qu'une vérité se saisit, et la littérature est irremplaçable comme chemin vers la vérité. C'est une pratique qui a son autonomie absolue. Et ceci était déjà clair donc dans les premiers numéros de tel quel. Ensuite, tout cela est devenu différent avec l'émergence aussi de la théorie pratique de l'écriture, écriture et critique en même temps. Le rapport entre tel quel et le groupe 63 peut se lire aussi à travers le rapport avec les avant-gardes précédentes dans chaque pays. Disons que le rapport du groupe 63 au futurisme, le rapport tel quel au surréalisme. Eh bien, il faut comprendre que le futurisme, qui lui avait été en rapport avec la France à travers Apollinaire, vous savez que Apollinaire avait écrit l'un des manifestes du futurisme, et eh bien le futurisme était dans ces années-là, dans les années 60 encore, extrêmement peu étudié. Le fait que le futurisme ait fini dans le fascisme faisait qu'il y avait une sorte d'embarras à en parler. Il y avait une sorte de volonté, de nécessité très sentie de se démarquer très radicalement de cela. Et il y avait pratiquement uniquement, si je me rappelle bien, deux personnes qui travaillaient sur ce point. C'était Luciano De Maria, qui était un critique de Mondadori, et Eduardo Sanguinetti, et qui était en quelque sorte vacciné par ce qu'on appellerait en France la double casquette, c'est-à-dire qu'il était poète, poète novissimo, poète d'avant-guardia, et aussi critique universitaire, c'est-à-dire que il faisait une critique universitaire. Il écrivait sur Dante, il écrivait sur toutes sortes d'écrivains, sur les poètes aussi du début du XXe siècle, et sur le groupe futuriste. Donc il essayait l'analyser, mais ça n'était pas un rapport, disons, qui était vécu ni pensé vraiment par le groupe. Le groupe 63 s'intéressait infiniment plus à Pound, par exemple, qu'au groupe 63 et à ce qu'étaient à ce moment-là les littératures américaines, par exemple, la littérature allemande, mais pas au futurisme et à ce qu'il avait représenté. Malgré la tendance historique et quelquefois historiciste de la culture italienne en général. C'est assez intéressant, cette sorte de vide qu'il y avait à ce moment-là. Alors que tel quel avait, comme l'avait dit à ce moment-là Michel Foucault, qui suivait de près les travaux de tel quel avait un regard attentif sur Breton. Mais il y avait des points communs, Foucault disait, mais peut-être les expériences que fait tel quel, qu'essaie de faire tel quel sur le rapport entre rêve, sommeil, raison irrationnelle, etc., pensée, fiction, tout cela était peut-être déjà dans le surréalisme. Mais il montrait et il disait que les gens de tel quel tenaient beaucoup à se singulariser par rapport à se différencier. Par exemple, Solers montrait bien comment il ne s'agissait pas pour eux d'une exploration psychologique, mais d'un objet de pensée et de la formation de ce qu'ils appelaient la fiction, où la littérature devient, selon l'expression de Foucault, réseau. Elle n'est plus rhétorique, c'est-à-dire vérité de la parole, et elle n'est plus non plus bibliothèque, c'est-à-dire chaque œuvre se mettant à côté, dans une série à côté des autres, comme série de l'histoire. La fiction, c'est une sorte d'expression que Foucault définira comme nervure verbale de ce qui n'existe pas tel qu'il est. Il y a toute une série de recherches, là je ne reviens pas, mais qui tournent toujours autour de cette expérience du langage, le langage non plus moyen de transport simple, mais espace dense à l'intérieur duquel les expériences ont lieu. petit à petit, dans les années suivantes, avec l'arrivée de Julia Kristeva, avec la lecture de la sémiologie en général, avec la présence de Lacan, etc., de Derrida, la théorie forme spécifique de la pratique et la fiction, lieu irremplaçable de connaissance. C'est dans cette voie, dans cette dimension spécifique que se trouve la nouveauté la plus forte de ces deux mouvements, qui sont extrêmement différents, mais dans un texte très récent qui vient de paraître sur le groupe 63, qui est publié par Nanni Balestrini et Alfredo Giuliani, Alfredo Giuliani parle de, et c'est très caractéristique, des expériences du groupe 63 comme lampi di verità. Lampi di conoscenza, des éclairs de vérité, des éclairs de connaissance. Et ici, c'est aussi ce même mouvement, même si la géographie, le paysage est complètement différent entre les deux, cette volonté de donner de reconnaître, disons, à l'expérience littéraire un caractère, une capacité de vérité et en même temps, de voir la forme de l'avant-garde, le recours à l'avant-garde, comme une nécessité dans les moments d'épuisement irrémédiable. Il se produit comme une sorte de nécessité d'exigence de la rupture. C'était, dit Alfredo Giuliani, une nécessité d'inventer le groupe 63, comme revisitation critique de la modernité et passion de comprendre. Il fallait, disait Giuliani, entrer dans les fractures de l'histoire pour les rendre visibles. Et c'est ainsi qu'on peut aussi comprendre ces deux avant-gardes comme le contraire de ce que disait à propos du terme avant-garde Baudelaire, qui détestait ce terme, disait ça fait partie des métaphores françaises, de ce goût des métaphores françaises pour les métaphores militaires. L'avant-garde, c'est le peloton qui va à l'attaque et il y a tout le corps d'armée derrière. Et à ce propos, Giuliani dit l'avanguardia è avanguardia di nessuno, solo di se stessa. Et je crois qu'on peut un peu garder ce drapeau d'une avant-garde qui n'est pas l'annonce et l'avant-coureur et la première manifestation d'une armée, mais au contraire une sorte de manifestation de liberté et de connaissance. Et je crois que dans cette mesure, dans la mesure où ces deux mouvements portent en eux ces exigences, qu'on peut aujourd'hui essayer de les retrouver et d'en garder quelque chose pour le lieu présent qui, je crois, en a besoin.